Donc, dans cette session de clôture, je vous promets qu'elle sera brève. J'ai demandé à Jean-Paul Fournier, non pas de façon conclusive et peut-être plutôt interrogative, lui en tant que responsable du département de simulation médicale, mais également du département de pédagogie, bien finalement de se livrer un petit exercice de questionnement par rapport aux professionnels et experts que vous êtes.
Merci beaucoup Pascal. Donc Pascal vient de m'apprendre que j'avais une lourde tâche, c'est de réfléchir à l'organisation de l'aspect scientifique de la prochaine présentation. Donc notez sur vos agendas dès maintenant qu'on se retrouve l'année prochaine ici, qu'on espère que les conditions soient aussi agréables que celles qu'on a pu offrir aujourd'hui. Et on est sûr que le niveau des sessions sera encore plus important et plus élevé que celui qu'on a atteint ici, qui est déjà un niveau extraordinaire. Alors comme vous l'a dit Pascal, je suis en charge ici du centre de simulation et je suis en charge également des patents de pédagogie médicale. La question qu'on se pose et pour laquelle j'ai absolument besoin de votre expertise, c'est finalement ce qu'on a vu en ce qui concerne l'éducation médicale sur les sessions qui ont lieu jusque-là, c'est que clairement les Serious Games allaient pouvoir apporter quelque chose. J'étais très intéressé par les présentations d'hier, mais très frustré aussi de ne pas pouvoir aller beaucoup plus loin dans ce que j'ai pu voir sur Serious Games et raisonnement clinique. Parce que pour le clinicien que je suis, le raisonnement médical, c'est la quintessence de l'art médical quelque part. L'autre élément qui m'interroge beaucoup, c'est qu'on est dans un amphithéâtre. On a beaucoup d'amphithéâtres qui sont vides parce que les étudiants considèrent à tort ou à raison que l'enseignement traditionnel dont ils ont bénéficié ou qu'ils ont subi, comme vous voulez, ne répond pas à leurs attentes. Il est donc clair que si on veut continuer à enseigner la médecine, et quelque part on est aussi surtout payé pour ça, avec comme objectif de former des professionnels de santé de bon niveau, il va falloir qu'on adapte nos méthodes pédagogiques. Et le Serious Game fait probablement partie d'une des pistes intéressantes qu'on puisse utiliser. Mais tout ce que vous nous avez présenté jusque-là, c'est très spectaculaire, c'est très intéressant, c'est très séduisant. Ça s'applique à des groupes pas très importants. Ma question est la suivante, ou plutôt mes questionnements sont les suivants, et encore une fois, j'ai besoin de votre expertise pour ça. Pensez-vous que l'on puisse utiliser des Serious Games à grande échelle, c'est-à-dire sur des populations importantes? Première question. Pensez-vous que dans ce cas, on retrouve l'efficacité qu'on a sur les petits groupes, encore que les données dont on dispose actuellement montrent qu'au mieux, ça fait aussi bien que les séances de simulation mettant en jeu du matériel IFI, mettant en jeu des acteurs, mettant en jeu des formes composites où on peut mixer acteurs, simulateurs haute fidélité? Mais ça s'applique à des petits groupes, mais c'est extrêmement cher, mais c'est extrêmement consommateur de temps. Et puis, troisième question, quels sont les thèmes sur lesquels vous pensez que les Serious Games puissent apporter quelque chose? Je ne suis pas absolument certain, quant à moi, que faire le traitement de la prise en charge de l'infarctus du myocarde bien défini chez le patient de 45 ans, qui a tous les facteurs de risque possibles et imaginables en Serious Games, soit beaucoup mieux qu'une leçon traditionnelle. Par contre, là où le Serious Game peut peut-être apporter quelque chose, c'est dans les cas un petit peu limites, où on ne dispose pas d'informations, où on a géré l'incertitude. Et puis, ma quatrième question, c'est comment est-ce que vous intégrez là-dedans le tuteur dont le rôle est indispensable? On a insisté et encore insisté, et on devrait encore insister sur l'importance du débriefing et du feedback dans toutes les séances de simulation. Et le Serious Game est un élément probablement très abouti de la simulation.
Alors, moi j'aurais envie de vous répondre aussi par une question toute simple qui est une question qu'on pose en général à toute personne qui veut se lancer dans un projet de Serious Game. C'est quel est votre rapport avec le jeu? Quelle est votre culture du jeu actuellement?
C'est une question piège. Je peux répondre que personnellement, je ne suis pas un joueur, mais j'ai compris que le jeu pouvait être un atout considérable pour l'enseignement. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, ça fait à peu près 2 ans, 3 ans que je m'intéresse au Serious Game, en étant absolument réfractaire au début, en y voyant qu'un jeu vidéo à peine amélioré, dont l'impact me semblait nul, jusqu'à ce que je fasse ce que beaucoup auraient dû faire, avant d'être aussi catégorique, jusqu'à ce que j'essaie, que je regarde, que je réfléchisse, pour avoir une opinion qui a été en se nuançant et en devenu vraiment favorable au Serious Game. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, je suis convaincu que le jeu est un élément important pour faire passer un certain nombre d'informations, de messages, de réflexions surtout. L'aspect réflexif m'intéresse plus que l'aspect donneur d'informations qu'on peut avoir par d'autres voies. Mais ma question et mes questionnements concernent plus la place qu'on peut lui attribuer.
D'accord. Alors, puisque vous avez répondu à ma question, je vais essayer de répondre à l'une des vôtres. C'est concernant l'aspect débriefing. C'est effectivement quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que on opère durant cette phase-là ce qu'on appelle une distanciation. Et il faut faire le point sur l'activité qu'on vient de mener pour essayer ensuite de voir ce qu'on a en tire comme enseignement. Et c'est vrai qu'une aide extérieure, un accompagnement à ce moment-là, est le bienvenu pour que on puisse effectivement faire un état des lieux de l'activité, de savoir ce qui a été bénéfique, qu'est-ce qu'on en a tiré comme enseignement, etc. Cependant, il a été aussi révélé par des étudiants et notamment une personne qui s'appelle Sébastien Alain, qui va soutenir sa thèse au mois de septembre, qu'il était important d'introduire pendant le jeu ce qu'on appelle un effet V, où on utilise aussi ce qu'on appelle des outils brechtiens. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'on a parlé beaucoup de flow ou d'immersion pendant le jeu. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on recherche, puisqu'on cherche à capter l'attention de l'utilisateur, l'immerger, pour le mettre dans une posture qui va être celui d'un joueur. Et ce qu'on oublie parfois, c'est tout simplement que, en étant immergé dans le jeu, on va se focaliser sur des tâches à accomplir, mais en ne prenant pas conscience forcément de ce qu'on est en train de faire sur le point de vue des apprentissages. Et donc, ce qu'on peut opérer comme approche, et qui est très intéressant, c'est qu'à un intervalle régulier, on va sortir le joueur de sa posture et le faire réfléchir sur ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout ramener au niveau du débriefing, forcément, mais pendant le jeu. Alors, je m'explique. Brecht, c'est donc une personne qui écrivait des pièces de théâtre et qui avait la particularité d'interpeller à un moment donné le public en le faisant sortir de son état de spectateur pour l'interpeller en tant qu'individu. Et ça, c'est une utilisation qui est très intéressante dans les jeux. Et il y a très peu de game designers qui font ça. Il y a, par exemple, Hideo Kojima qui le fait dans la série des Metal Gear Solid. Alors, je vous donne un exemple juste pour vous situer un petit peu l'approche. Dans un des jeux, il vous demande, vous êtes enfermé dans une pièce et il vous dit, vous devez trouver le code qui se trouve au dos de la boîte pour sortir de la pièce. Et donc la pièce est ridiculement petite, donc on fait vite le tour et on ne trouve jamais cette fameuse boîte avec le code qui se trouve au dos. Et en fait, à un moment donné, s'opère un déclic chez le joueur, c'est tout simplement qu'il doit aller chercher la boîte qui se trouve dans la vraie vie, c'est-à-dire la boîte du jeu. Et quand il retourne cette boîte du jeu, il trouve le code pour lui permettre de sortir. Et là, ce que commence à faire le game designer, c'est essayer de dire au joueur, tu es effectivement quelqu'un qui va permettre le pilotage d'un avatar, mais tu es aussi un individu qui tient une manette. Et donc cet échange entre ce qui se passe dans la diégèse, c'est-à-dire dans le monde virtuel, avec les actions qu'on y mène, c'est une chose, et là on demande effectivement à être en état d'immersion, mais ce qui se passe aussi, c'est que quand on est en train de manipuler, on a aussi un monde réel, et il faut opérer sans arrêt des va-et-vient entre ce monde réel et ce monde virtuel pour rapatrier des connaissances, des savoirs et peut-être des compétences. Et c'est tout le challenge qu'on essaye de mettre en œuvre actuellement. Et on teste aussi d'autres choses qui sont l'introduction, par exemple, d'objets tangibles qui pourraient permettre de faire aussi ce va-et-vient entre l'environnement virtuel et le monde réel. Et ces objets tangibles rappellent tout simplement l'objet transitionnel tel que le définit le docteur Winnicott, par exemple.
En fait, en pratique, est-ce que vous avez déjà l'expérience des serious games qui sont déjà employés aux États-Unis, parce qu'il y a quand même il y a quelques serious games au niveau en termes de formation médicale aux États-Unis. Est-ce qu'ils l'emploient en pratique ou pas, ou ça reste anecdotique?
Sur ce qu'on a vu, ça reste relativement anecdotique. Maintenant, on a l'expérience de serious games américains adaptés en France, pas toujours très très bien sur le plan linguistique et pratique, utilisés dans des démonstrations avec des laboratoires. Donc c'est l'expérience que j'en ai eue, que j'ai trouvée inaboutie et frustrante, ne serait-ce que parce que, comme le disait M. Alvarez à l'instant, on n'a pas la possibilité technologique de faire l'aller-retour entre le jeu et la réalité, comme par exemple faire un arrêt sur image, disant finalement à ce stade où est-ce qu'on en est. Quels sont les points qu'on a vus, quelles sont les questions qu'on a pu poser, si on prend l'exemple d'un patient qui vient pour une douleur coronarienne, qui est un grand, grand classique, quelles sont les questions qu'on a posées, quelles sont les questions les plus pertinentes, quelles sont les réponses qu'a apporté le patient, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et à ce moment-là, on peut reprendre le jeu. Ce qui m'interroge, encore une fois, j'ai besoin de votre expertise, c'est finalement, le serious game, c'est un outil séduisant, qui sera encore plus séduisant à mesure que vous allez progresser en termes de conception. Mais la question qui se pose à l'enseignant que je suis, c'est finalement comment je peux l'utiliser. Parce que dire « Youpi, je fais du serious game », c'est pas une fin en soi, ça c'est clair. Par contre, dire comment je vais l'utiliser dans un curriculum, qu'est-ce que je vais pouvoir traiter particulièrement bien qu'un serious game alors que je ne pouvais pas le traiter autrement. Ça, c'est la question importante. Et la question importante aussi, c'est comment optimiser l'utilisation des serious games. Je ne pourrais pas malheureusement assister à la journée de demain sur la conception d'un serious game avec l'expertise que vous allez apporter à cette activité. Mais ma question, c'est le serious game, on va me le livrer tel quel. Il y a des produits qui sont très 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 séduisants qui apparaissent sur le marché maintenant. À la dernière réunion de la Société européenne de médecine de simulation médicale, j'ai vu deux serious games qui sont extraordinaires. Un qui est un serious game de physiologie appliqué à la physiopathologie, qui va depuis la mitochondrie jusqu'à l'occlusion des vaisseaux, plutôt en l'occurrence de l'occlusion des vaisseaux jusqu'à la mitochondrie. Et l'autre qui est un serious game conçu en France autour de Paris 5, Alexandre Mignon devait nous en parler, mais il n'a pas pu le faire pour des raisons familiales, qui prenait en charge un patient avec une symptomatologie coronarienne, mais qui permettait un arrêt sur image avec l'analyse des questions, par exemple, posées aux étudiants. Et on pouvait parfaitement imaginer de coupler un serious game qui commence comme ça, qui s'arrête, par exemple, sur les questions, et qu'on puisse revoir avec les étudiants, avec un système de vote, par exemple, comme on fait dans les congrès. Voilà les questions qui ont été posées, voilà les questions qui sont pertinentes, voilà les questions qui ne sont pas pertinentes, et aller par la suite.
Oui, mais finalement, c'est deux. On peut voir le serious game de deux manières. Soit effectivement on fait des arrêts sur image à certains moments, soit on fait comme pour la simulation sur mannequin. Chacun a son cas, chacun va évoluer différemment dans le cas. Puis après finalement on a toutes les réponses de tout le monde et on va rediscuter chaque étape. Pourquoi 90% des étudiants ont fait telle chose? Pourquoi pour cette étape-là il y a eu vraiment 20%, 20%, 20%? Et c'est là, enfin. Je pense qu'on peut finalement l'utiliser de différentes manières. Il n'y a pas forcément l'un ou l'autre.
Absolument.
En tout cas, est-ce que je veux juste intervenir. En tant qu'enseignant, il faut, à mon avis, extrêmement bien s'être approprié l'outil avant de. C'est la condition sine qua non. Hein. Parce que. Non, mais ça paraît ridicule de le dire, mais ne serait-ce que pour les soignants éducateurs. Que moi je côtoie fréquemment. Si on ne maîtrise pas parfaitement l'outil en termes de transmission, c'est compliqué, même en termes d'exploitation, etc. Enfin, c'est à mon avis un des freins.
c'est un frein pour n'importe quelle technique d'éducation.
Pour les enseignants classiques, le fait de d'avoir une exploitation comme ça des serious games à grande échelle, ce qui était une de vos questions, il me semble.
Oui, absolument.
C'est un des freins. Et c'est malheureusement incontournable de se l'approprier, quoi.
Ça, c'est sûr. Bon, ceci dit, on trouve dans la littérature au moins deux exemples d'utilisation de serious game en amphithéâtre, un en physiologie et un en pharmacologie. Deux matières qui, a priori, ne sont pas pour les étudiants les plus attractives, même si elles sont très, très importantes, ce dont ils se rendent compte a posteriori quand ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus les bases.
Alors, en fait, ce qui est important aussi, ce sont les différents types d'accompagnement, parce que l'introduction d'un jeu, d'un serious game, dans le système, dans le processus de formation ou dans l'enseignement, demande aussi à réorganiser l'écosystème en question. Et donc, pour ça, effectivement, il faut un accompagnement ou il faut plusieurs types d'accompagnement. Donc, un exemple tout bête, mais par exemple, si on veut introduire un serious game dans une école, donc il faut d'abord avoir l'approbation des parents d'élèves, par exemple, ensuite des enseignants qui vont devoir l'utiliser, ensuite du chef d'établissement. Et puis une fois que tout le monde est d'accord, une fois que le jeu est introduit, ben ça suffit pas. Peut-être qu'il va falloir repenser la pédagogie autour du jeu. Donc là, il peut y avoir plusieurs approches. Il peut y avoir alors ce sont a priori plutôt les pédagogies actives, dites actives, c'est-à-dire apprentissage par projet, apprentissage par problème, qui exploitent au mieux ou qui sont les meilleurs réceptacles pour utiliser le serious game. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait un jeu où il faut construire une fusée à eau, par exemple, on va prendre des bouteilles, de l'eau, du carton, etc., pour fabriquer les fusées, et on a tout de suite un résultat qui est la mise en œuvre de ce projet, et on voit ce que ça donne, c'est contextualisé. Et donc le serious game, ça peut être, si c'est sous forme numérique, ça peut être une représentation de ça, mais pour des choses qui seraient beaucoup plus complexes, par exemple faire fonctionner une centrale nucléaire. Voilà. Et alors juste pour terminer, je vous donne la parole après. Il faut des accompagnements à différents niveaux pour mettre tout ça en œuvre, c'est pas évident. Il faut des accompagnements dans trois grandes étapes, c'est à la conception du serious game, lors de la diffusion du serious game et lors de l'utilisation du serious game. Et ça, c'est très important. Et associé à ces trois grandes phases, il y a toute une typologie d'accompagnement. Et on en dénombre à peu près une quinzaine. Je pourrais vous les donner en détail si vous voulez, voilà, pour ne pas monopoliser la parole. Merci.
One thing that I know they're putting a lot of effort into in the United States in medical simulation centers is training of staff to run the simulations. And I think that may be something that's worthwhile thinking about.
Probablement.
Donc ça veut dire que l'utilisation de choses complètement achetées, importées, ça marche pas.
Est illusoire, mais ça c'est clair.
Voilà.
Et l'expérience...
Ça c'est un point important parce que l'année dernière, voire l'année d'avant, on a fait, on va dire, une sorte de publicité... nationale, très importante, etc.
L'expérience qu'on a eue avec les premiers serious games qu'on a vu passer, qui étaient des traductions littérales de serious games américains, n'était absolument pas concluante pour plusieurs raisons, une des principales étant l'utilisation de médicaments qu'on n'utilisait pas nous dans les mêmes circonstances. Et donc la traduction littérale n'est clairement pas utilisable. Un autre élément qui était intéressant aussi, vous avez insisté beaucoup sur la qualité de l'environnement dans lequel évoluaient les différents avatars, le réalisme de l'environnement. On avait des environnements qui n'étaient pas ceux auxquels on avait l'habitude de voir, et donc très clairement les transferts ne seraient probablement pas faits puisque le réalisme est un des garants des transferts en simulation.
Oui, mais l'hyperréalisme ne semble pas forcément être lié, on va dire, à tous les moteurs, entre guillemets, d'appropriation. Hein. Je prendrai ce mot-là pour,
bien sûr.
Pour globaliser ce qu'on a vu hier. Donc, bon, le jeu ne fait que commencer. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ?